difficile. Colette s'excuse, elle ne sera pas parmi nous ce soir. Bien, donc je vais présenter les intervenants. Chris Viskovich, psychanalyste à Paris. Sylvia Scopare, psychanalyste à Toulouse. Patricia Sarotti, psychanalyste à Paris. Armando Cote, psychanalyste à Paris. Et donc je propose à Sylvia Scopare de commencer.
Merci à Toulouse. Merci pour Toulouse, pardon. Donc, bonsoir d'abord à tout le monde. Le thème de notre séminaire de l'année est d'une telle richesse qu'il m'a été très difficile de choisir l'angle pour l'aborder. Je dirais qu'en vérité, je me suis retrouvé, comme je crois les collègues qui partagent les contributions à la table ce soir, face à un thème double. Le thème de l'année, les ségrégations, et le thème de cette soirée, les exils. Et entre les deux, il me semble que les rapports ne sont guère évidents. Pourtant, au moment d'envoyer le titre et l'argument de mon intervention, ne s'est imposé que le plus simple, c'est-à-dire la conjonction des deux, exil et ségrégation. Et j'y vais donc. Je commencerai par dire que en partant ne serait-ce que de cette table et des collègues et amis avec lesquels j'ai le plaisir de la partager, se trouvent rassemblés rien moins que l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Espagne, le Mali. Et avec tout ça, on peut avoir le sentiment que l'on sait ce qu'est l'exil et les liens intimes avec sinon psychanalyse, en tout cas avec les psychanalystes. Ils sont souvent soit les exilés, soit les enseignants exilés dans le sein de la psychanalyse, peut-être s'interroger sur le pourquoi. Pourtant, la géopolitique de la psychanalyse, si je puis dire, et les historiens des psychanalystes ne nous disent pas nécessairement ce qu'est l'exil. Ou alors, ce serait donner de l'exil une vision idéalisée, voire élitaire et bourgeoise, soit celle qui s'apparente davantage au type d'exil que les analystes ont tendance à privilégier dans leurs travaux. C'est-à-dire l'exil des artistes et des créateurs, qu'ils soient écrivains comme Joyce, Pessoa, Thomas Mann, Stefan Zweig, Beckett, etc., qu'ils soient peintres comme Kandinsky, Picasso, Botko, Chagall, musiciens comme Schoenberg, Stravinsky, Kurzweil, etc., etc. C'est que les œuvres de ces créateurs, leur exil, quasi doré pour certains d'entre eux, a eu tendance, me semble-t-il, à effacer les tragédies sociales et ou politiques qui ont déterminé la contrainte ou le choix de leur exil, ou les drames subjectifs que le dit exil a pu générer. Pour l'essentiel, c'est à ces exilés, disons extraordinaires, que les analystes se sont intéressés, et c'est à travers leur expérience que se sont fomentés et propagés les mots de l'exil, comme ses affects ou ses objets. Cependant, on remarquera que même pour ces exilés extraordinaires ou cosmopolites, force est de constater qu'ils témoignent d'expériences de l'exil assez dissemblables. Exil contraint ou forcé, je l'ai dit, mais aussi exil volontaire, exil initiatique, exil temporaire, entre guillemets, mais aussi l'exil, le véritable, c'est-à-dire celui qui est sans retour possible, le seul exil véritable, et jusqu'à l'exil joycien qu'on pourrait presque qualifier de métaphysique. On peut se souvenir ici, à propos de cet exil de Joyce, de ce que a pu en dire Hélène Cixous, dans son magnifique ouvrage sur l'exil de James Joyce, pardon, ou l'art du remplacement. Je cite donc Cixous. Joyce va passer de la condition de rebelle à celle d'exilé, de l'état de guerre secrète contre l'Église, force dominante à l'intérieur de la société, à l'état de guerre ouverte contre la société entière et les individus. Peu à peu, pourtant, Joyce va être amené à élargir à la fois les cercles dans lesquels il est pris et le concept même d'exil. Il avait déjà fait de l'hérésie sa vertu, il va faire de l'exil une citoyenneté imaginaire. C'est ainsi que se fait le passage d'une conscience dublinoise malheureuse à une conscience universelle, en s'éloignant du lieu et des circonstances particulières. Joyce conquiert un monde plus étendu pour y établir son œuvre. L'exil n'est plus vécu seulement comme une séparation par rapport à un monde qui ne le tolère pas ou qui lui est intolérable, mais qui devient avec les années un exil absolu. Qui se souvient de ses origines, mais en est détaché? Qui se souvient de ses origines, mais en est détaché? De ces guises de l'exil, donc fin de citation, c'était Hélène Cixous. De ces guises de l'exil, je dois dire, que je viens de rappeler, je dois dire que le rapport à la ségrégation, est peu évident. C'est même son contraire qu'elles engendrent, portées qu'elles sont par un certain procès d'universalisation qui peut être rapporté aux Lumières, aux droits de l'homme et à la démocratie. Si exil et ségrégation ont été noués à l'occasion des tragiques histoires des esclavages, de l'esclavage des Hébreux en Égypte à la traite négrière transatlantique, c'est dans la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyse de l'école que Lacan va esquisser, me semble-t-il, quelque chose qui, du point de vue de la psychanalyse, pourrait expliciter le principe de leur articulation. Certes, c'est comme préalable d'une critique au niveau de l'extension de la psychanalyse que Lacan était amené à avancer les trois repères essentiels qu'il avait jugés bons d'inscrire à l'orée de ce qu'il assignait à son école, à savoir le départ d'une rénovation de l'expérience. C'est donc en tant que troisième repère et qu'il registre du réel que Lacan énonce, je le cite, la montée d'un monde organisé sur toutes les formes de ségrégation. Ségrégation dont il situe l'avènement, quasi généralisé, comme corrélatif de l'universalisation du sujet de la science, qui est, ne l'oublions pas, le sujet, à croire Lacan en tout cas, sur lequel opère la psychanalyse. Mais pour notre séminaire de ce soir, ce n'est pas tant la généralisation de la ségrégation qui nous intéresse que son ou ses liens avec l'exil. Dans cette perspective, je soulignerai que Lacan note finement que s'il y a une montée d'un monde organisé sur toutes les formes de ségrégation, il y eut, et ce n'est pas de hasard, une sensibilité plus grande encore de la psychanalyse à ce phénomène de ségrégation. Je le cite, puisque la psychanalyse, les psychanalystes n'ont laissé aucun des membres reconnus au camp d'extermination. Vous connaissez le passage de la proposition. Dit en clair, l'IPA a organisé le sauvetage et l'exil de ses membres. Ce dont on ne peut bien évidemment que se féliciter, sa conséquence majeure ayant été, pour ainsi dire, la survie même de l'histoire analytique. Mais je laisse de côté les considérations que Lacan a pu en tirer pour la psychanalyse pour ne retenir que ceci. L'exil peut ne pas être une expérience individuelle, c'est-à-dire un phénomène programmé et inscrit dans une aventure subjective, une volonté d'émancipation de séparation, voire de renaissance. Il y a aussi l'exil qui vient mettre au jour ce dont l'histoire est faite. Cette histoire dont Lacan est allé chercher la vérité, non pas chez Hérodote, mais chez Joyce. Je vous permets de citer Lacan dans son Joyce Symptôme. Joyce refuse à ce qu'il se passe quelque chose dans ce que l'histoire des historiens est censée prendre pour objet. Il a raison, poursuit Lacan. L'histoire n'étant rien de plus qu'une fuite dont ne se raconte que des exotes. Par son exil, il sanctionne le sérieux de son jugement, ne participe à l'histoire que les déportés. Puisque l'homme a un corps, c'est par le corps qu'on l'a, envers de l'habeas corpus. Relisez l'histoire, pour conclure avec Lacan, c'est tout ce qui s'y dit de vrai. Ceux qui croient faire cause dans son remue-ménage sont eux aussi des déplacés, sans doute d'un exil qu'ils ont délibéré, mais de s'en faire escabeau, les aveugles. Fin de citation. On tient là, me semble-t-il, presque une indication concernant ce qu'on peut appeler une politique lacanienne. Ces déplacés aujourd'hui, qui sont-ils? Si divers par leurs origines, leurs projets et aspirations, ils sont pourtant presque indifféremment appelés immigrants, réfugiés, demandeurs d'asile, femmes, hommes, enfants poussés dans ce mouvement qui les arrache à une terre, parfois à une langue et à une culture, et qui en font, entre fuite, asile et errance, les nouvelles figures de l'exilé. Ce qu'ils ont en commun, c'est de fuir quelque chose. La misère économique, la guerre, l'oppression politique, les persécutions religieuses ou sexuelles, etc. Ce qu'ils ont en commun aussi, c'est que leur fuite advient dans un monde à la fois globalisé, post-colonial, individualiste, inégalitaire, et marqué par les replis et les crispations dites identitaires. L'exil et l'exode, loin de conduire à des sociétés de plus en plus intégrées et rassemblées, tendent plutôt à produire ce qu'il faut bien appeler, pour reprendre le terme consacré par Weber, des communautés. Reproduction, l'exil produit de nouvelles ségrégations, des communautés qui, paradoxalement, œuvrent contre le commun et promeuvent et consolident de nouvelles ségrégations. Voilà.